Bon, et alors, deuxièmement, ça suppose aussi que je considère comme, pourquoi je prends à la lettre ce passage de l'Évangile sur l'Eucharistie ou sur la conception virginale, parce que l'Église, depuis toujours, me dit cela, c'est à prendre à la lettre. Et on appelle ça un dogme. Un dogme, c'est une vérité qui se trouve dans l'Écriture, d'une façon plus ou moins explicite, et sur laquelle l'Église joue en quelque sorte son infaillibilité. Ça suppose aussi que j'ai démontré par ailleurs que Jésus a confié à son Église le soin d'interpréter les passages difficiles de l'Écriture. Ce n'est pas évident non plus. Et il y a une logique dans tout cela. Mais si vous croyez que l'Église a été voulue par Jésus-Christ pour nous aider dans le domaine de la foi, eh bien, vous allez accepter cette interprétation que donne l'Église de certains passages de l'Écriture. Pour le dire tout de suite, il y a des centaines et des milliers de passages de l'Écriture où l'Église vous laisse libre d'interpréter à votre façon. Par exemple, dans le récit des noces de Cana, Jésus a-t-il dit « Mon heure n'est pas encore venue » ou « Mon heure n'est-elle pas encore venue ?» Comme il n'y a pas de point d'interrogation dans les manuscrits, eh bien, vous pouvez interpréter de deux façons différentes. Et l'Église n'interviendra jamais pour dire « C'est comme cela ». Elle laisse les experts chercher. Et combien d'autres passages? L'Église n'a pas réponse à tout. Mais de temps en temps, l'Église intervient pour dire, c'est comme cela. C'est comme cela que je prends à la lettre les deux passages de l'Écriture sur le fait que Saint Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Le petit passage de Matthieu et le petit passage de Saint Luc. C'est vraiment minime. Pourquoi je ne prends pas ça d'une façon symbolique, comme le font d'innombrables chrétiens au cours des siècles? C'est une façon de parler, ça veut dire que Marie, elle est vierge de cœur. Ainsi fait Françoise Dolto dans son livre L'Évangile au risque de la psychanalyse. Il faut démythologiser ce truc-là. Si on veut que les chrétiens, si on veut que les jeunes retournent à la messe, il ne faut pas leur dire la Vierge Marie. Bien sûr que Marie, elle a eu des relations sexuelles avec Joseph pour avoir son petit bonhomme. C'est une façon de parler. Il faut démythologiser. Eh bien non, Françoise Dolto, vous êtes hérétique sur ce point-là. L'Église est intervenue dès le début pour dire ça, c'est à prendre à la lettre. Non, parce que dès le début, il y a eu des. On n'a pas attendu le XXe siècle pour contester, pour s'étonner que l'enfant Jésus n'ait pas été conçu comme les autres enfants. Vous savez, nos ancêtres n'étaient pas des imbéciles. Hein. Ils se posaient aussi des questions, bien plus que nous d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient que ça à faire. Au XIIIe siècle, par exemple, en Sorbonne, on faisait 10 fois plus de théologie que le français moyen d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les sciences d'aujourd'hui. Donc, vous savez, la philosophie et la théologie des siècles anciens étaient très, très approfondies. Les gens se posaient beaucoup de questions. Bon, un dogme, c'est une vérité à laquelle je suis obligé de croire. Les anges, par exemple, vous avez des chrétiens actuellement qui se demandent si on est obligé de croire à l'existence des anges, bien sûr. Et pas seulement parce qu'on en parle 1000 fois dans la Bible, mais parce que l'Église nous dit ça, c'est l'Église a toujours cru qu'il y avait des réalités angéliques autour de nous. Depuis toujours, on chante la liturgie avec les anges et les saints. Nous chantons le Sanctus tous les jours dans l'Eucharistie. Mais vous avez des chrétiens aujourd'hui qui disent, est-ce qu'on est vraiment obligé de croire à l'existence des anges? Et ce qui scandaliserait tous nos frères orthodoxes pour qui ça ne fait aucune difficulté. On comprend d'ailleurs que les orthodoxes aient beaucoup de mal à accepter Jean-Paul II quand il vient en visite chez eux, parce que pour eux, pour lui, Jean-Paul II, il représente une église où on remet tout en question. Ce n'est pas des orthodoxes, ils n'ont pas une foi droite, tous ces gens-là. Et si les Grecs savaient toutes les bêtises qu'on peut parfois enseigner, alors ils seraient encore plus en rage contre les catholiques. Les catholiques, ils ne croient plus aux anges. Non, ce n'est plus des chrétiens. Prenez toute église orthodoxe, il y a une coupole au-dessus de l'autel qui rappelle que nous vivons tout cela avec la liturgie des célestes. Bon, l'Église après Vatican II, évidemment, croit tout à fait à l'existence des anges. Ça n'a jamais été remis en question par Vatican II. Mais vous avez des gens qui s'imaginent que Vatican II a remis en question justement tous ces dogmes, qu'on peut maintenant interpréter à sa façon, qu'il faut être moderne. Yes. Alors on laisse au New Age le soin de parler des anges, parce que le Nouvel Âge en parle énormément. Mais après avoir cru à tous ces dogmes, à tous ces mystères sur l'autorité de l'Écriture interprétée par l'Église, le travail n'est pas terminé. Je vais quand même essayer de comprendre le plus possible tous ces mystères. Et c'est l'objet de la théologie. Et c'est la raison pour laquelle les futurs prêtres, depuis le XVIIe siècle, font tous 4 ans de théologie. Je rappelle que ce sont 3 prêtres français du XVIIe siècle qui ont inventé les séminaires. Le Concile de Trente au XVIe siècle avait insisté sur la nécessité de bien former le clergé, mais ce sont 3 prêtres français qui, quelques décennies plus tard, ont inventé le moyen de les former. Jean-Jacques Ollier, curé de Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement aujourd'hui, l'ancien quartier latin, parce que pendant tout le Moyen-Âge, on parlait latin dans toutes ces universités de la rive gauche. Jean-Jacques Ollier, curé de Saint-Sulpice, qui a fondé les Sulpiciens pour former les séminaristes. Monsieur Vincent, qui a fondé les Lazaristes, qui sont devenus aussi professeurs de séminaire. On connaît surtout de Monsieur Vincent son activité caritative en faveur des enfants abandonnés et des galériens. Et Monsieur Vincent a été aussi un prêtre passionné par la formation du clergé. Et enfin, Saint-Jean-Eudes, originaire de Caen, du Calvados, hein, qui a fondé les Eudistes, qui eux aussi ont été professeurs de séminaire. Bien, chose curieuse, les séminaires d'aujourd'hui fonctionnent encore suivant le plan imaginé par ces 3 prêtres français. 2 années de philosophie, 4 années de théologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la théologie? C'est une science un peu spéciale. Puisque, au lieu de déduire les vérités les unes des autres, comme on peut le faire en physique ou en chimie moderne, eh bien, on éclaire les mystères les uns par les autres. Et on va faire des travaux pratiques dans un instant. La grande formule de la théologie, elle a été formulée par ce grand génie du XIIe siècle, abbé du Bec-et-Loing, et 2e abbé de Canterbury. Guillaume de Conquérant est allé chercher dans cette abbaye les futurs archevêques de Canterbury. Saint Anselme, reprenant d'ailleurs une formule de Saint Augustin, dit « Crede ut intelligas », crois pour comprendre. Tu commences par croire et ensuite tu essayes de comprendre. Un théologien, qu'il soit prêtre ou laïque, c'est quelqu'un qui est d'abord un croyant de la base, un homme croyant de la base, il croit comme tout le monde sur l'autorité de la parole de Dieu, et ensuite, dans un deuxième temps, il essaye de comprendre le plus possible, tout en sachant qu'il n'arrivera jamais à comprendre parfaitement le mystère, sinon ce ne serait plus un mystère. Et c'est assez curieux, et c'est pourquoi certains n'aiment pas cette science, parce qu'ils disent qu'on n'arrive pas à une clarté absolue. C'est vrai, ça reste obscur. On prend un mystère, n'importe lequel, et on l'éclaire par les autres aspects du mystère. Et vous prenez un clair-obscur, vous le mettez au centre de votre réflexion, et vous l'éclairez par les autres clairs-obscurs du mystère chrétien. Et du coup, le mystère en question devient un petit peu plus clair, tout en restant obscur. Et c'est la méthode. Bien énoncée par le Concile Vatican I. Le Concile Vatican I a réfléchi, on le sait surtout, sur l'infaillibilité pontificale. Mais au XIXe siècle, on a beaucoup réfléchi sur ces rapports entre la foi et la raison. Il y a de très beaux textes que Jean-Paul II rappelle dans son encyclique sur la foi et la raison. À force de scruter les mystères, on en obtient, dit Vatican I, aliquam intelligentiam, une certaine intelligence. Non pas pour faire la grosse tête et tomber dans l'orgueil, ce qui serait quand même dommage, ça peut arriver qu'un théologien soit orgueilleux. Mais alors, il n'a rien compris à la véritable théologie. Hein ? On fait de la théologie non pas pour devenir plus malin que les autres, mais pour mieux savourer les mystères de Dieu. Comme dit Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si tu savais à quel point c'est formidable l'Eucharistie, c'est formidable la conception virginale, c'est formidable les anges, c'est formidable tout ça, eh bien, tu serais beaucoup plus heureux, tu serais beaucoup plus chrétien. On fait de la théologie pour prier. D'ailleurs, il y a un grand slogan chez les orientaux, à savoir que les seuls vrais théologiens, ce sont les saints. Ce que rappelle Jean-Paul II dans son encyclique, dans sa lettre à propos du 3e millénaire. Allez interroger les saints. Les saints sont des théologiens. Les saints réfléchissent. C'est pour cela qu'on les étudie. C'est pour cela que leurs œuvres continuent à être lues et traduites dans toutes les langues. Ce n'est pas un simple intérêt archéologique, littéraire, qui fait qu'on continue à étudier saint Augustin, saint Anselme, saint Bernard, sainte Thérèse d'Avila, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est qu'ils obtiennent, et ils finissent par savourer la parole de Dieu. Sous l'influence de l'Esprit-Saint, ils comprennent un petit peu mieux les mystères, et du coup nous en profitons.